Radio La Vine Provençale et Radio Grenouille de mes amours.
Des films d'aujourd'hui pour penser demain sur des thématiques lesbiennes, gays, bi et trans. C'est l'accroche du festival Reflet dont la 8e édition se déroule en ce moment même et jusqu'au 9 mai 2010 au Cinéma des Variétés. En direct sur La Grenouille, une émission spéciale consacrée à ce festival où évidemment le cinéma, fiction et documentaire a une place éminente, mais qui donne aussi lieu à des concerts, des expositions, des actions, des rencontres. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Dans l'immédiat, place au cinéma avec les invités de cette émission que je vais tout de suite vous présenter. Les réalisateurs Jérôme Nunes, qui présentait en ouverture du festival Alter Ego, un court-métrage. On accueille aussi Jean-Baptiste Ereka, co-auteur avec David Dibilio de This is Family, un documentaire qui est projeté ce soir à 20h, toujours au cinéma des Variétés. Et puis Anne Delabre, qui n'est pas réalisatrice mais auteur, notamment d'un ouvrage sur le cinéma français et l'homosexualité. Anne Delabre est aussi journaliste pour Tétu et le Nouvel Obs, et elle vient à Marseille pour animer un débat sur les luttes et les droits des homosexuels, à partir notamment de la projection du film Einstein of Sex, un film de Rosa von Proneim. C'est demain, samedi 8 mai, à 16h. Et puis enfin, Michèle Philibert, programmatrice de ce festival Reflet. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Michèle, pour commencer, une 8e édition du festival qui fait pousser un soupir de soulagement à son public, et puisque l'an dernier le festival n'avait pas eu lieu et qu'on avait même cru son avenir compromis faute de subventions. Alors aujourd'hui, nouveaux moyens, nouveaux soutiens, Reflet retrouve les moyens de sa politique.
On va dire ça comme ça. Donc déjà une petite précision, c'est pas faute de subventions l'an dernier. Ça a été plutôt, on va dire, comme pour beaucoup d'associations qui sont fragilisées par des trésoreries plutôt limitées, même si les institutionnels sont attentifs à ces questions-là. Ben, l'an dernier, ben, effectivement, il s'est trouvé qu'il y a eu un espèce de moment un peu creux où les subventions n'étaient pas là. Perte de subventions de la ville, perte de subventions de l'État, effectivement. Et donc une trésorerie qui était vide, un compteur à zéro de l'association. Et donc l'impossibilité pour celle-ci de pouvoir accueillir les programmations, commander des films, les payer et faire vivre sa structure. L'association MPPM, donc voilà, avait décidé l'an dernier de suspendre le festival pour ces raisons-là. Cette année, un retour, je dirais, amical, et je l'espère en tout cas avec intérêt, sur les contenus que ce festival propose, sur ces thématiques lesbiennes, gays, bi et trans, à la fois d'un des premiers partenaires institutionnels qui est la région PACA, qui a soutenu l'association dès sa création, puis ensuite ce festival, rejoint en cela quelques années après pour le festival par le Conseil Général, qui renouvelle cette année sa subvention, et enfin par la ville de Marseille, qui renouvelle cette année une subvention, voilà, votée il y a très peu de temps.
C'est la 8e édition de ce festival. On pourrait peut-être en quelques mots en retracer le parcours et peut-être par exemple raconter un petit peu le contexte de sa fondation.
La fondation, c'est 2002. La première édition 2002, un festival porté par deux femmes lesbiennes, Florence Fradelisi, moi-même, toutes les deux amies de longue date, travaillant dans le monde de la culture et en particulier du cinéma. Florence est monteuse, moi ce n'est pas le cas, mais c'est une grande passion cinéphilique qui nous a rassemblés autour de cette perspective, avec le désir de présenter dans un axe principal et très visible le cinéma des questions LGBT, que les réalisateurs soient eux-mêmes gays, lesbiennes, lesbiennes, bi, trans et autres ou pas, c'est-à-dire porter un regard éclairé et en tout cas je l'espère pertinent, puisque c'est la plupart du cas, des cas en tout cas, un beau travail de création porté par ces réalisatrices et réalisateurs du monde entier, puisque le festival s'attache aussi à donner un état du monde sur ces questions-là et va chercher des films sur des marchés, dans d'autres festivals, en France, à l'étranger, pour pouvoir mettre en perspective ce que nous vivons, nous, ici en France, avec ce qui se passe dans d'autres pays.
Sur les axes de travail et de programmation de ce festival, on constate d'emblée qu'il y a un vrai parti pris d'ouverture. Ça n'est pas le festival de la communauté gay, bi, lesbienne et trans. Mmh. C'est un festival qui est ouvert à un très large public, même s'il met en débat des questions qui concernent cette communauté homosexuelle.
Oui, tout à fait. C'était un désir vraiment très très fort de Florence et de moi-même d'axer l'ensemble de ces programmations vers une interrogation collective. Le festival a un nom qui, je crois, a été bien choisi. Des films d'aujourd'hui pour penser demain. Nous sommes dans une société, nous, gays, lesbiennes, bi et trans, intégrés dans une société en tant que citoyens. Nos vies amoureuses et nos vies sexuelles ne concernent que nous, bien évidemment. Nous sommes inscrits aussi dans une société et à ce titre, avons peut-être à dire ce que nous sommes. Enfin, c'est pas peut-être, c'est une certitude. Et à défendre ce que nous sommes. Évidemment, pour lutter contre toutes les discriminations, pour lutter contre le fait qu'aujourd'hui, dans les cours d'école encore, la grande injure, c'est petit PD. Donc je pense que nous avons, en tout cas nous adultes homosexuels, gays, lesbiennes aussi, un devoir de transmission de quelque chose, un devoir de prendre la main aux générations futures, d'essayer de construire une société à l'image de ce qu'on aimerait qu'elle soit, c'est-à-dire plus tolérante, plus accessible à chacun d'entre nous. Voilà, et ce festival, des films d'aujourd'hui pour penser demain, a posé comme ça, pas à pas, au fil de ces 8 années, je pense, une réflexion à laquelle tout le monde peut être associé.
8 années pour ce festival, c'est la 8e édition effectivement. Est-ce qu'il y a un fil rouge pour cette 8e édition, quelque chose d'une thématique qu'on verrait apparaître? Je pense notamment peut-être à sport, corps, encore un effort.
Oui, ça c'est une thématique. Bon, le festival a toujours tenté, en fonction de ses programmations, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit des films en tant que programmatrice, on a envie de donner une cohérence à un événement. C'est comme un disque, hein. Un disque, un musicien ne va pas mettre sur la plage numéro 2 le morceau qu'il aurait choisi, qu'il n'aurait pas choisi en plage numéro 5. Donc on essaye de construire une programmation qui a une cohérence. Et en même temps, il arrive parfois que se dégage des films que nous recevons, eh bien une thématique. Une année, par exemple, ça a été des films qui axaient, où les auteurs, les créateurs et créatrices, les réalisateurs et les réalisatrices, parler davantage, par exemple, d'homoparentalité. Bien, cette année, on a eu l'opportunité de visionner et de voir des films dont les thèmes portaient sur les questions du sport. Qu'est-ce que c'est quand on est un sportif accompli, un gay, une lesbienne qui travaille, qui vit une pratique sportive, qui va essayer de trouver sa place dans une pratique sportive qui n'a pas a priori la possibilité d'être exprimée de façon notable, c'est-à-dire quand on est un garçon qu'on a envie de faire de la natation synchronisée, qui est le sujet du film de Louis Dupont, Les garçons de la piscine, comment est-ce qu'on va essayer de pratiquer ce sport? Voilà, donc c'est des thématiques qui arrivent comme ça, on y réfléchit bien évidemment et on essaye de construire tous les ans une thématique. Donc cette année, c'est la thématique que j'ai choisie.
Des formes et des formats très variés dans cette programmation, oui, du Festival Reflet, des courts, des très courts aussi. Je voudrais juste en deux mots, et très court, oui, que tu nous parles de Silence égale morte.
Alors Silence égale morte, c'est un magnifique, magnifique travail qui a été initié d'abord pour les 20 ans d'Act Up. Act Up, bon, je ne vais pas présenter ici à l'antenne puisque tu me demandes de faire court, je pense que tout le monde connaît Act Up. Le sida est en tout cas encore aujourd'hui une maladie qui existe toujours, dont beaucoup de gens souffrent, qui transforme leur vie à tout jamais. Je pense qu'on en parle malheureusement peut-être pas assez. Et en particulier, Elisabeth Pérez avec Chasse Productions, Act Up et Arte ont décidé de faire une série de 10 courts-métrages, fiction ou documentaire, portés par des réalisatrices éminentes. Il y a Sylvie Bayot, Solveig Anspach, voilà, c'est les noms qui me viennent comme ça à l'esprit tout de suite, en donnant la parole à des personnes, à des femmes qui ont le sida, et en leur laissant la possibilité de s'exprimer, fiction ou documentaire. 2 films sont présentés devant chaque séance, donc 2 films de 3 minutes avant chaque séance du festival.
fiction ou documentaire. Effectivement, la programmation du festival Reflet reflète ces deux genres cinématographiques. On va aussi essayer de les refléter au cours de cette émission spéciale. On va commencer peut-être par la fiction dans un instant, avec Alter Ego de Jérôme Nunes, dont on écoute peut-être, pour se mettre un petit peu en bouche, un extrait de la bande originale. C'était un extrait de la bande originale du film Alter Ego, une musique de Jean-Marc Montera. Alter Ego, un court-métrage écrit et réalisé par Jérôme Nunes, avec Geoffrey Copini et Laure Quenin. Un film qui est tout récent, puisqu'il est sorti en 2009. « Je est un autre », célèbre phrase d'Arthur Rimbaud. C'est le thème de ce film, Jérôme, non. L'autre, finalement, c'est en quelque sorte un autre soi-même.
Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un film qui tourne autour de trois personnages, en fait deux réels et un imaginaire. C'est en fait, je me suis basé sur l'idée du dédoublement et j'ai voulu passer par le cinéma pour exprimer ça. Donc, on a deux personnages, un qui est incarné par Geoffrey Copini, qui est ce jeune homme qui n'a pas de nom, et puis autour de lui une figure un peu évanescente d'une femme qui évolue. Ça se passe au cours d'une nuit. Et le personnage, en fait, est perdu dans sa solitude et pour en sortir va se dédoubler. Et moi, j'ai aimé filer cette sorte de métaphore où le personnage se sent tellement seul qu'il est obligé de se multiplier, de se dédoubler et de vivre une expérience érotique avec lui-même, en fait.
Quand tu dis une figure évanescente, pour citer ce personnage féminin, mm-hmm. c'est une ombre. Est-ce que c'est l'ombre du jeune homme ?
C'est... Alors ça peut être une des interprétations, je vais essayer de pas trop vendre la mèche pour ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire pas plaquer mon interprétation, et pour ceux qui l'ont pas vu également, leur laisser la liberté de choisir, d'interpréter eux-mêmes. C'est effectivement, il y a une ambiguïté sur ce personnage. C'est un film qui a très peu de dialogue, c'est un film beaucoup d'atmosphère. On vient d'écouter la musique de Jean-Marc aussi qui participe de cet univers un peu flottant, un peu onirique ou cauchemardesque par moment. Et effectivement, il y a une ambiguïté entre est-ce que c'est ce même personnage décliné au féminin et au masculin ou est-ce que ce sont deux identités séparées. Je laisse la question en suspens.
Un peu flottant, peut-être nocturne en tout cas.
Oui, c'est un film qui se passe uniquement de nuit, en intérieur et en extérieur. C'est pas vraiment à huis clos, même s'il y a que trois personnages et qui sont assez isolés, aussi bien dans des intérieurs plus ou moins austères ou dans un quartier assez oppressant. Mais oui, c'est un film qui se passe que de nuit parce que dans ma tête, c'était aussi cet univers un peu cauchemardesque, un peu ou onirique. Que j'ai eu envie. Je trouvais que l'histoire ne pouvait pas se passer en plein jour. Ce n'était pas possible. Pour qu'on puisse glisser de ces séquences, de séquence en séquence, il fallait cet univers nocturne.
Un film qui, dans son rapport à l'autre, est aussi finalement une exploration de la solitude.
Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est le thème central. Je suis très content de participer à Reflet. Ce n'est pas du tout un film à thèse, même si la sexualité, l'identité en général est au cœur du film. Il me semble qu'effectivement, c'est dans la lignée des films qui sont proposés, ou du moins de la thématique générale du festival. Mais voilà, moi, j'ai voulu traiter de ce thème de la solitude et de donner une figure, une sorte de métaphore aussi de la masturbation à travers ce corps qui se dédouble, qui se multiplie. Donc ce sont deux corps masculins qui vont vivre deux expériences sexuelles qui sont une forme d'auto-érotisme en fait.
Le film a, je crois, été tourné à Marseille et à Carreau. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est déroulé le tournage de ce film?
Alors le tournage lui-même a duré 6 jours, deux jours pour les extérieurs, enfin 2 nuits pour les extérieurs et 4 jours pour les intérieurs. On a tourné les intérieurs à Marseille et les extérieurs à Carreau, effectivement dans un village vacances qui de nuit peut avoir cette atmosphère totalement oppressante.
Je comprends le cauchemardesque.
Voilà, c'était vraiment l'univers rêvé pour ça quand on a fait les repérages avec l'équipe. Voilà, pour le tournage, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est tourné assez rapidement, même si le projet a été long à développer. C'est un projet qui a été très peu aidé, qui a été aidé par le Défi Jeune que j'avais présenté en 2008, fin 2008. Et ça a permis de lancer la production du film grâce à la production Greenhouse pour Marseille et pour la France. C'est une coproduction entre la France et le Luxembourg. Du côté France, il y a Greenhouse et la Compagnie d'Avril. Et le Luxembourg, Minotaurus Film, qui ont soutenu le projet et qui m'ont aidé à apporter un projet un peu atypique.
C'est effectivement la question que je m'apprêtais à te poser sur la production. On évoquait tout à l'heure avec Michel les difficultés qu'a rencontré le festival, les difficultés de diffusion. La production pour un jeune réalisateur, c'est évidemment toujours aussi un écueil, un parcours du combattant souvent. Est-ce que, alors tu disais que tu n'avais finalement pas été très aidé pour la production de ce film, mais est-ce que tu es allé taper à toutes les portes? Quelles instances tu as pu arriver à agréger à ton projet?
Il y a beaucoup de portes auxquelles taper, donc je pense que je n'ai pas tapé à toutes, mais c'est un premier film, donc c'est mon premier court-métrage. Les courts-métrages étant difficiles à produire en général, là je pense que la thématique aussi n'a pas forcément aidé. Après, on a sollicité les subventions, les fonds classiques du cinéma, qui sont le CNC et la région. On n'a pas été soutenu parce que je pense que c'était un projet un peu jeune qui avait aussi des défauts. Et voilà, mais on est très contents. C'est un projet assez léger en termes de budget. On a réussi, je pense, à avoir une qualité optimale en termes d'image, de musique. Enfin, ça part vraiment de la synergie de toute l'équipe qui s'est rassemblée autour de ce projet. Une fois qu'on a eu l'équipe et les gens qui ont accepté de se faire peu ou pas payer, on a réussi à monter un projet comme celui-ci.
Quand tu dis que tu ne penses pas que le film a été peu aidé, enfin que ça n'est pas à cause de la thématique qui est abordée dans ce film, tu ne penses pas ou tu en es sûr? Parce qu'il pourrait y avoir un certain ostracisme quand même à l'égard d'un film qui parle de sexualité, qui parle du rapport à l'altérité, qui parle de l'auto-érotisme, qui n'est pas très vendeur, quoi.
Ouais, c'est un peu polémique, je ne sais pas trop. Les retours que j'ai eus, ce n'était pas forcément sur ça, c'était plutôt sur la structure du film ou l'univers, ou un film qui n'était pas assez développé, ou le scénario était trop expérimental. Donc ça, c'était les raisons officielles, on va dire. Après, la thématique, effectivement, peut-être que ça peut aussi faire peur d'aborder ce genre de thème au cinéma. Je sais pas, c'est pas un film particulièrement militant ou de ce côté-là, mais peut-être qu'effectivement la thématique a pas aidé.
C'est ton premier film, Jérôme ?
C'est mon premier film produit dans des conditions comme celle-ci, et mon deuxième film, j'avais fait un film amateur 4 ans auparavant, donc c'est mon premier projet.
Peut-être en rebond, Michel, justement, sur la place qu'accorde le Festival Reflet à des tout jeunes films de tout jeunes créateurs. L'aide à la nouvelle création, c'est un des éléments importants du Festival Reflet.
Ah, c'est une constante et je crois que c'est absolument essentiel, puisque la jeune création, les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices, ce sont les réalisateurs de demain. Et que chaque réalisateur, que ce soit Fellini, Scorsese ou autre, ont commencé par des courts-métrages. Et en tout cas, le festival s'est donné pour tâche depuis quelques années de présenter au regard curieux et attentif des festivaliers et festivalières ces créations-là, qu'elles soient françaises, étrangères. Et c'est en ce sens d'ailleurs que cette année, comme les autres années, la soirée de clôture sera consacrée uniquement à des courts-métrages, avec un partenariat précieux et une carte blanche offerte au festival tout court d'Aix-en-Provence. Jérôme, Jean-Paul Nogues qui est là avec nous, donc directeur de ce festival important à Aix-en-Provence, a accepté notre invitation et cette carte blanche, voilà, a été montée.
Jérôme Nunes, quel va être le destin de ce film maintenant ? Tu le lances en le présentant dans le cadre de ce festival Reflet. Tu es en recherche de distributeurs ?
De distributeurs, oui. Enfin là, on essaie surtout de montrer le film au maximum. La durée de vie d'un court est assez courte. Et le but, c'est qu'il passe dans un maximum de festivals. Ce qui est un peu le cas, donc on est très content d'avoir fait la première à Reflet à Marseille, parce que c'est un film, moi je suis scénariste et réalisateur marseillais. Donc une grande partie de l'équipe est également de Marseille. Et puis il va y avoir dans la foulée une projection à Montevideo le 5 juin dans le cadre de Son de Plateau, puisque Jean-Marc Montera donc a fait la musique et est partenaire du projet. Et comme c'est une coproduction avec le Luxembourg également, alors j'ai plus les dates, je crois que c'est le 16 juillet, dans le festival Gaymat, qui est aussi un festival gay et lesbien à Luxembourg. Donc voilà, il y a un certain nombre de festivals qui se profilent. Et voilà, j'espère que le film aura une belle vie. Après, en télévision, je pense que ça va être plus compliqué, justement, pour ce qu'on évoquait. C'est pas le format idéal pour ce genre de film, me semble-t-il.
Voilà, si vous avez raté Alter Ego lors de la soirée d'ouverture du festival Reflet, vous pouvez le retrouver à Montevideo dans le cadre du festival Son de Plateau, 5e édition de ce festival. C'est le 5 juin à 18h30. Du fantasme au réel, de la fiction au documentaire, un autre aspect maintenant de la programmation du festival Reflet avec This Is Family. On en écoute un extrait.
We'll celebrate in France.
Alors, la journée de Bécassine. Ok, on va commencer. Est-ce que tu peux me trouver le gant de toilette ? On va pas parler le gant de toilette. C'est bien, chérie.
Aujourd'hui, je crois, après 4 ans de galère, je crois, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où la famille est l'élément le plus important.
Come on. I hope the new people are nice, Jenny said. I hope they have some kids our age, I said. Now, making the decision.
Aujourd'hui, nous envisageons de déménager en France dans l'année qui vient.
House for sale.
Bien que ce soit un peu stressant, toute la famille doit déménager dans un autre pays.
Entire family to another country. At least we have a goal.
And we've actually. Mais là, au moins, nous avons un but. Et maintenant, on s'est fait une raison. Donc, nous nous concentrons là-dessus.
Now we're working with that. I love you. See you tomorrow. Good night. I'm going to turn off the lights.
This is Family, un documentaire de Jean-Baptiste Erika, coécrit avec David Dibilio. une traversée des États-Unis à la rencontre de 9 familles de gays et lesbiennes. Alors on se souvient de « Famille, je vous hais », décidément après Rimbaud, « Voici André Gide ». Les choses ont évidemment bien changé d'un siècle à l'autre. Aujourd'hui, une nouvelle façon de penser ou repenser la famille en bouleversant les clichés. Alors, This is Family, dans ce jeu des 9 familles, chacune d'entre elles est évidemment très différente et quelque part emblématique. Jean-Baptiste, c'est une sorte de catalogue des mutations sociétales ?
Catalogue, pas vraiment. En fait, ce film m'a été commandé par Canal au moment des élections générales aux États-Unis. Et Canal fait une nuit gay depuis de très nombreuses années. Et cette année-là, ils voulaient faire une semaine américaine. Et donc, ils nous ont demandé de réfléchir à un documentaire pour la nuit gay tourné aux États-Unis. Donc, l'idée, c'était de trouver un fil conducteur. Bon, la famille, on sait que c'est une valeur sacrée aux États-Unis. Et de trouver dans ce fil conducteur aussi, de pouvoir remettre un peu toutes les thématiques qui pouvaient être abordées pendant la campagne. C'est-à-dire la politique du don asque dentaire dans l'armée, par exemple. Les histoires de mariage, toutes les histoires un peu politiques, quoi. Hein. Donc voilà, l'idée c'était de prendre la famille comme fil conducteur. Donc on a rencontré des familles, donc c'est la famille LGTB, hein, donc les lesbiennes, gays, trans et bi, mais aussi la famille avec ce qu'elle a, enfin ce qu'on connaît de la famille, quoi. Donc l'idée c'était à travers 9 personnages, de les filmer, de voir un peu ce qu'était la famille aujourd'hui. Alors on a une famille homoparentale, composée de 2 mamans, avec 2 enfants, une maison, un chien, enfin le bonheur parfait. Et on a aussi des familles un peu différentes, quoi. Donc l'idée c'était de pas de juger, mais de dire voilà, il y a plusieurs façons d'être en famille. Et aussi de se demander si, même dans la question de la communauté homo, est-ce que être une famille, est-ce que c'est singer forcément le modèle hétérosexuel ou est-ce que c'est trouver d'autres modèles ? Donc on sait que bon, les États-Unis sont toujours un laboratoire formidable de ce qui peut se passer ou de ce qui va peut-être se passer. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait ce film.
Tu l'évoquais tout à l'heure, le contexte de la réalisation de ce film, il apparaît en filigrane tout au long du film, c'est le contexte de l'élection présidentielle américaine. Après les années Bush, un bel espoir avec Barack Obama. Quelle place les communautés LGBT ont pris dans cette élection, dans cette campagne ?
Ben disons, moi c'est marrant parce qu'on a quand même traversé les États-Unis d'est en ouest. Je cherchais à filmer justement... des affiches électorales du camp républicain, je n'en trouvais pas. C'était quand même déjà un signe, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais à filmer Obama, le parti républicain, je n'arrivais pas à trouver d'affiches de McCain. Donc déjà, c'était un petit signal, quoi. Après, bon, c'est vrai que faut pas oublier que le Don't Ask, Don't Tell, par exemple, qui est une loi qui a été instaurée par Clinton, hein, donc les démocrates.
Tu rappelles en 2 mots voilà. De quoi il s'agit ?
Donc en fait, c'est une loi qui dit qu'on peut servir l'armée quand on est gay, mais il ne faut pas en parler. Donc en tant que moi, militaire, je n'ai pas le droit de dire que je suis gay. Et les supérieurs n'ont pas le droit de vous demander si vous êtes gay. Donc c'est un peu le statu quo. Donc c'est quand même une loi qui a été votée par Clinton. Bon, maintenant, Obama est là, les choses n'ont pas vraiment changé. Hein. Donc je crois qu'au niveau de la communauté gay, je ne sais pas si Obama va vraiment faire bouger les choses. Le mariage, par exemple, on a tourné donc une séquence de mariage à San Francisco avec un couple binational, c'est-à-dire un Américain et un Français. Bon, ils se sont mariés à San Francisco, mais bon, au mois de novembre, la loi est tombée, on ne peut plus se marier.
Alors justement, c'est une décision de la Cour suprême de l'État de Californie, c'est ça qui a rendu le mariage homosexuel définitivement impossible dans cet État, c'est ça ?
Voilà. Alors maintenant, les gens sont en train de bouger, je crois que les gens sont en train de se remobiliser à nouveau pour essayer de faire bouger les choses, mais donc voilà, il y a eu un laps de temps où les mariages étaient autorisés, et il y a eu 30 000 mariages qui ont été... des gens se sont mariés dans ce laps de temps-là, dont Fabien et son compagnon.
Dans ce parcours tout autour des États-Unis, est-ce que tu as pu remarquer, de ce point de vue-là, des grandes différences d'État à État ? J'imagine comme ça que la Californie, c'est pas tout à fait le même état d'esprit qu'au Texas, par exemple.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, les États-Unis, c'est vraiment, c'est plein de contradictions, quoi. C'est vrai que quand on est dans les grandes villes comme San Francisco, New York, les choses se vivent peut-être plus facilement que dans des États comme le Colorado. On a fait une séquence justement dans un rodéo gay qui a lieu chaque année à Denver. Bon, là, on voit la difficulté qu'ont les jeunes homos qui vivent vraiment dans les fermes, dans les ranchs, à vivre leur homosexualité. Donc, c'est sûr que qu'on soit dans une ville ou dans un bled paumé des États-Unis, ça n'a rien à voir. Hein.
San Francisco, un mythe pour la plupart des communautés LGBT, les révoltes, etc. Enfin, tout à coup, un mouvement a apparu, un mouvement de libération, mais un mouvement dont on voit bien aujourd'hui qu'il est très fragile avec cette annulation par la Cour suprême de Californie de la possibilité de s'y marier. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas une régression, je dirais, dans le domaine du droit, dans le domaine juridique, à l'égard des communautés LGBT.
Ouais, mais en même temps, il y a d'autres États qui le permettent, donc ça bouge en permanence, quoi. C'est vraiment, les États-Unis, c'est vraiment, comme je disais, un pays plein de contradictions, c'est-à-dire qu'il y a une liberté apparente énorme, et en même temps, il y a ce côté très, très, très conservateur, qui est, surtout... La part de la religion est très importante aussi aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui est là tout le temps. On voit bien dans la famille, la première famille que j'ai filmée, qui est une famille homoparentale qui vit dans le Michigan. Bon, c'est la famille parfaite. Ils vont à l'église, le pasteur est gay, tout le monde est gay, tout est formidable. Mais bon, pour moi, ça a un côté aussi un peu terrifiant, quoi. C'est-à-dire ce que je disais, moi, ma
propre... Tu veux dire, c'est Disneyland ?
Ouais, c'est Disneyland, mais c'est aussi moi ce qui m'a vraiment fait peur, c'est de voir comment ce besoin d'être intégré à la société est tel que même dans la famille, on est obligé de singer le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire une maison, un chien, deux mamans, mais une qui fait plus le bricolage, l'autre qui fait plus la cuisine, Voilà, je me pose des questions et je me dis que bon, un personnage comme Nikki Stallard, par exemple, qui est un personnage très controversé parce que elle fait partie d'une association qui s'appelle les Pink Pistols, qui est une association d'autodéfense pour gays et lesbiennes. Bon, on se rend compte en fait que c'est une transsexuelle, un espèce de personnage tarantinesque comme ça, qui adore tirer, quoi, qui adore les flingues en fait. Hein. Mais elle, bon, elle s'est fait opérer il y a 2 ans, elle est divorcée, elle a 2 enfants qui ont 24 ans, mais la famille existe, c'est-à-dire que la famille se voit, la famille existe, et c'est pas un modèle tel qu'on peut l'imaginer, quoi.
La politique en filigrane dans ce film, la politique peut-être aussi présente dans les questions que se posent les homosexuels aux États-Unis. Est-ce que le débat politique a lieu au sein de la communauté ? Est-ce que des idées politiques émergent ? Est-ce que les gays sont porteurs de nouvelles idées politiques aux États-Unis ?
Je ne pourrais pas trop répondre à cette question-là. Je sais que, bon, aux États-Unis, New York, San Francisco, les mouvements gays et lesbiens sont quand même assez forts, quoi. Je pense qu'ils bougent les choses. Maintenant, on voit bien avec Obama, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon. C'est une société qui est quand même très, très, très conservatrice. Hein, donc, c'est très, très difficile de faire bouger les choses. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question-là. Je ne sais pas trop.
On peut évidemment difficilement éviter de faire la comparaison avec la situation en France. C'est peut-être aussi une des clés de ce que propose ce film, hein, dans son voyage au travers des États-Unis, c'est d'interroger la manière dont nous vivons ici et percevons la famille et le rapport entre la famille et l'homosexualité. De ce point de vue-là, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vraie différence dans les modes de vie, dans les modes de comportement ?
Entre ici et aux États-Unis.
Oui.
Oui, comme il peut y en avoir, mais sans même parler de d'homosexualité ou pas. Hein. Moi, par exemple, une des séquences que moi j'ai le plus aimé, c'est ce qu'on a fait avec les communautés black et latino, qui se retrouvent dans ce qu'ils appellent des houses, des maisons. C'est-à-dire que tous les petits jeunes qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont gays. Bon, évidemment, ils souffrent aussi de la double discrimination parce qu'ils sont blacks. Ces mômes-là sont pris en charge par des gays, des lesbiennes plus âgées, et donc ils recréent une sorte de famille qui leur permet de... Bon, là, ils se retrouvent à travers des balles, ils font des compétitions de mode, des choses comme ça, mais bon, l'idée aussi, c'est de dire aux gamins, bon... tu vas faire ta compète, tu vas aller faire ton défilé de mode, mais il faut que tu ailles à l'école. Mais est-ce que tu prends bien ton préservatif? Est-ce que tu mets le préservatif? Donc il y a aussi une fonction politique qui est très forte, et moi j'étais très impressionné. Je me dis, bon, quand on connaît les problèmes ici d'homosexualité dans les cités, dans les banlieues, ça n'existe pas ici. Il y a autre chose aussi qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est tous les SDF, par exemple, aux États-Unis. À Denver, par exemple... chez les SDF, il y a 25% des SDF qui sont SDF parce que la famille les rejette. Bon, il y a des structures qui sont très bien faites aux États-Unis où on accueille ces enfants, on leur pose pas de questions, on leur demande rien, on leur permet juste d'être ensemble, et on leur permet aussi de vivre leur sexualité et d'assumer ça, quoi.
This is Family, un beau documentaire de Jean-Baptiste Erika, coécrit avec David Dibilio. Vous pouvez le voir ce soir même, c'est à 20h au cinéma des Variétés. On continue notre exploration de la programmation du festival Reflet, une question politique qu'on a commencé là à explorer, qu'on va sûrement continuer à aborder avec Anne Delabre, le temps d'écouter un extrait de la bande originale de Einstein of Sex, pas si facile à dire que ça, un film de Rosa von Proneim.
Hast du das wirklich fabriziert? Was Talent, mein Sohn. Magnus, die Dinge dieser Welt sehen zu wollen, ist nichts Schlechtes. Schäme dich nicht dafür. Ingwer Stiebchen. Sag mal, was willst du denn einmal werden?
Das konnte ich Vater natürlich nicht sagen. Tja, was sollte nur aus mir werden?
Einstein of Sex, un film de Rosa von Proneim, c'est un monsieur, hein,
oui.
Rosa.
Oui, important de le préciser.
En hommage à Magnus Hirschfeld, premier scientifique à avoir, au tournant des 19e et 20e siècles, affirmé que l'homosexualité n'était pas ni une maladie, ni une perversion. Anne, tu complètes peut-être un petit peu ce très rapide et schématique portrait que je viens de faire de Magnus Hirschfeld?
Oui, effectivement, Magnus Hirschfeld était le premier sexologue allemand, hein, qui a donc créé un institut, effectivement, au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Donc il était quand même très précurseur, évidemment, pour l'époque. Simplement, il y a toute une théorie, je ne vais pas développer ici, c'est un petit peu long, mais sur le troisième sexe. Et donc pour lui, l'homosexualité était génétique, en fait, hein, donc il y avait deux sexes plus un troisième. Donc évidemment, c'est, bon, ça portait beaucoup de polémiques, hein, c'était dans une, entre guillemets, bonne intention. Mais c'est sûr qu'après, il y a eu des petits soucis, évidemment, avec la montée du nazisme. Hein, son institut a été totalement détruit à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Tout a été brûlé. Enfin, il a dû s'exiler à Nice, hein, où il a fini ses jours. Il est mort en 1935, si je me souviens bien.
Le 14 mai, oui.
Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il est très... Enfin, il est très emblématique, hein, de cette espèce de mouvement pour la défense des droits des homosexuels, une certaine reconnaissance. Donc, c'était quand même assez exceptionnel pour l'époque, même si ces théories, bon, sont plus ou moins contestables.
Elles sont datées, je crois. Surtout.
Oui, elles sont datées. Voilà. En même temps, faut replacer dans le contexte, hein, c'est sûr. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi se souvenir qu'en Allemagne, avant le nazisme, il y avait quand même une période de grande liberté, hein, sexuelle. Hein. On se souvient des cabarets berlinois dans les années 20. Voilà. Donc, c'était une période un peu en or, on va dire. Après, ça a évidemment beaucoup changé. Bon, moi, c'est vrai que je me suis plus intéressée à la France, même si on fait toujours des comparatifs. Et c'est vrai qu'en France aussi, c'était une époque quand même de relative liberté, quoi qu'on en pense. Et quand on observe un petit peu certains films, type Hôtel du Nord, Marcel Carné en 36, par exemple, bon, évidemment, Marcel Carné étant homosexuel, même s'il n'était pas déclaré, bien sûr, à l'époque, on voit que, par exemple, il y a un personnage homosexuel joué par François Perrier qui est totalement intégré à la vie de l'Hôtel du Nord. Il est dans le café, enfin voilà, il fait partie de la vie de quartier. Il est totalement banalisé, entre guillemets, alors que c'était quand même dans les années 30. Et on s'aperçoit, quand on voit un certain nombre de films de l'époque, que bah, en France, il y avait une relative, au-delà de la tolérance, une relative ouverture par rapport à ça. Bon, après, ça a changé parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu De Gaulle. Bon, voilà, on s'est un petit peu refermé là-dessus. Mais quand on compare aux États-Unis, par exemple, il y a le code de censure Code Hines depuis 1934. Donc avant 34, il y a des films quand même relativement osés, hein, même des Lubitsch ou des films comme ça. Et ensuite, bah, c'était très compliqué parce qu'on devait montrer aucune scène. Alors, je me souviens plus les termes exacts, mais disons, faisant la promotion de perversions diverses et variées dans l'homosexualité. Et donc là, on s'est retrouvé avec des tas de films qui sont extrêmement homophobes, où l'homo est forcément criminel, suicidaire, dépressif, malade. Enfin bon, il y a des tas de films comme ça. Et ça a duré quand même jusqu'en 66. Hein. Donc c'est assez marrant de comparer ce qui se passait aux États-Unis dans les années même 50-60 et la France. En Angleterre, c'était un peu pareil, parce qu'il y a un régime victorien assez, assez sévère aussi. Et par exemple, on s'était amusé avec le co-auteur du livre là, que j'ai écrit, Didier Roth-Bétoni, qui est un grand spécialiste du cinéma LGBT. Il avait, lui, carrément fait une encyclopédie au niveau du cinéma mondial. Et en faisant des petits comparatifs, on voyait par exemple un film qui est ressorti récemment en copie originale, La Rumeur de William Wyler, par exemple, hein, qui quand même date de 61. Film américain qui est quand même très très daté, hein, c'est le cas de le dire. Donc forcément, c'est une histoire de lesbienne, elle meurt, elle se suicide, enfin bon bref. Et 10 ans avant, donc en 1950, il y avait un film français qui s'appelle Olivia, Jacqueline Audry, qui certaines similitudes au niveau de l'histoire, ça se passe aussi à un pensionnat de jeunes filles avec deux femmes, mais là, je veux dire, il y a une relation entre les deux directrices et ça passe comme une lettre à la poste, c'est totalement naturel, bon voilà, donc c'est assez, assez étrange le comparatif 10 ans plus tard par exemple, donc ça c'est un cas typique, voilà.
Étonnant comme le cinéma américain, d'habitude si amateur de happy end et en général si désespéré, dès que les personnages sont homosexuels, là forcément ils vont mourir ou il leur arrive les pires choses. Ce climat de censure à l'égard du cinéma que tu évoquais, Anne, il est finalement le reflet du climat de répression à l'égard des homosexuels à l'époque de Magnus Hirschfeld, au tournant entre le 19e siècle et le 20e siècle. C'est la prison ou c'est la condamnation qui guette au coin de la rue les homosexuels.
Oui, bah, en général, c'est vrai que le cinéma, par exemple, reflète aussi l'évolution de la société et réciproquement. Hein. Bon, c'est sûr que ce qu'on peut voir, bon, en Allemagne, bien sûr, il y a la montée du nazisme qui a beaucoup joué par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'au tournant du 19-20e siècle, on a encore le procès d'Oscar Wilde en 1890 pour l'Angleterre, par exemple. Bon, en France, il y a le climat de l'affaire Dreyfus. On pourrait établir certaines comparaisons, d'ailleurs, par rapport à ça, l'antisémitisme et l'homophobie. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on, alors si on reprend la France, on constate effectivement le Front populaire, voilà. Bon, après la guerre, bon, ben, la résistance, tout ça qui est quand même, ben, malgré tout pas très gay-friendly, on va dire. On doit être dans le droit chemin, le gaullisme, etc. Et c'est quand même à l'époque où, je crois que c'est en 1960, il y a l'amendement Mirguet qui est voté, donc qui confirme que l'homosexualité est un fléau social, quand même. Hein. Bon, c'est quand même pas rien. Et du coup, on a une espèce de retour en arrière par rapport à certains films. Alors, il y a un truc qui est assez marrant à comparer, c'est plusieurs versions de La Garçonne, donc célèbre livre de Victor Marguerite, qui a donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques, dont une de 1936 de Jean de Limure, donc adaptée par un homme, bon, avec Arletty, avec Marie-Belle, et où on voit, c'est un film très très libre, il y a quand même une scène, notamment dans une fumerie d'opium, on voit des scènes lesbiennes, enfin vraiment assez osées quand même, 1936, bon. Et ensuite, il y a une version 20 ans après, donc de Jacqueline Audry, hein, cette fois, 1957, où là, c'est beaucoup plus policé, il y a quand même une morale de l'histoire, où la jeune fille, donc la garçonne, un petit peu dépravée par certains moments, refile dans le droit chemin, il finit marié, enfin voilà. Donc c'est beaucoup plus édulcoré finalement dans les années 50 que dans les années 30. Et ça reflète aussi la réalité de la politique de l'époque, bien sûr.
On est en train de parler de répression pénale de l'homosexualité en employant des passés composés et des imparfaits, mais ce serait peut-être aussi utile d'en parler au présent. Il faudrait quand même rappeler que si ici la répression s'est faite, on va dire un peu moins, de manière un peu moins visible, en tout cas elle n'est pas légale, ça n'est pas un appareil normatif d'État qui réprime l'homosexualité. Malgré tout, dans bien des pays du monde, l'homosexualité reste un délit, voire un crime, et passible parfois de mort.
Ah oui, effectivement. Bon, là, je parle du point de vue. Le film de Rosalind von Praien, c'est un film allemand. Hein, donc, le réalisateur est un contemporain de Fassbinder. Hein, il a même fait un documentaire sur lui. On parle d'Angleterre, la France, les États-Unis. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, de par le monde, je crois qu'il y a 70 pays où l'homosexualité est encore punie de la peine de mort. Hein, c'est quand même effectivement pas négligeable, loin de là. Récemment, il y a le film Nuit d'ivresse printanière, un très beau film chinois là, qui est sorti. Et. Son réalisateur expliquait que, évidemment, il était interdit et que c'est quand même très, 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 très dur de vivre son homosexualité là-bas. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais on se rend bien compte que les amours homosexuelles sont très malheureuses et que c'est très compliqué. Donc, par rapport au cinéma, c'est sûr que...
Votre sentiment autour de cette table, justement, sur cet enjeu d'une solidarité internationale à l'égard de cette répression pénale de l'homosexualité? Comment faire que on puisse tous influer de manière à ce que les appareils juridiques de ces pays, ces 70 pays qui continuent à envoyer à la chaise électrique ou à la corde des homosexuels, puissent enfin changer? Michel?
Écoute, je crois que là, ça appartient à chacun aussi d'être citoyen, d'être impliqué aussi dans sa vie personnelle, me semble-t-il. Hein, maintenant, il n'y a pas de modèle, on n'a pas à dire aux uns il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons notre libre arbitre, nous avons nos façons d'être dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. En tout cas, ce qu'il me semble, c'est que l'engagement est important et que nous ne devons pas, en tout cas, laisser faire. Alors, aujourd'hui, il y a un outil qui est évidemment l'Internet, qui permet peut-être que par des réseaux sur le web soient connectés des gens sur la planète entière et qu'on puisse découvrir un jour en recevant un mail que trois garçons sont, je ne sais pas moi, en Amérique latine, ont été mis en prison, qu'une pétition arrive sur un bureau d'un État, d'une institution, de politique, et qu'on puisse intervenir de la sorte. Après, dire comment nous devons faire, je crois qu'effectivement c'est un engagement, en tout cas c'est en tout cas ce que le festival aussi fait dans l'aspect qui est également le sien, c'est-à-dire un espace de militantisme bien sûr, et que ces sujets n'ont pas été abordés innocemment, bien évidemment par les deux femmes, Michel et Florence, que nous sommes, et lesbiennes. Donc ça veut dire que ce festival aussi porte un acte politique en soi.
Un enjeu politique international, mais aussi peut-être un enjeu politique dans la politique intérieure française, voir évoluer de nouvelles générations d'acteurs politiques en France. Et je pense notamment une nouvelle génération à gauche, hein, faut bien aller chercher le progrès là d'où il peut venir, comme Clémentine Autain, par exemple, à qui, Anne, tu as dédié une biographie, une nouvelle génération dans le paysage politique.
Oui, effectivement, Clémentine Autain est assez représentative d'une jeune génération qui s'implique en politique. Hein. Elle a 73, c'est bientôt son anniversaire, donc elle a 37 ans là bientôt. Et effectivement, elle-même n'est pas homosexuelle, c'est une autorité publique, donc je ne dévoile rien là à ce sujet. Mais elle a été parmi les premières effectivement à défendre par exemple le mariage gay à Bègles en 2005, et à s'impliquer au quotidien. Vraiment, c'est pas uniquement de la façade, on va dire. Mais avant tout, elle est féministe, elle a un engagement antisexiste, et c'est vrai que le sexisme est un peu à la racine de l'homophobie aussi, de toute forme de racisme. Et je pense qu'effectivement, il faut peut-être voir les choses d'une manière plus globale. Et il n'y a pas un combat homophobe, un combat raciste, un combat antisexiste, c'est un combat global pour la défense des minorités. Et c'est vrai que, bon, au niveau des structures politiques, peut-être qu'elles sont à renouveler aussi, notamment à gauche, notamment au niveau de la gauche radicale, et peut-être en ayant un parti qui soit alors au-delà d'anticapitaliste ou pas capitaliste ou antilibéral, de se préoccuper de questions de société telles que celle-ci, et pas uniquement de sujets économiques purs et durs, parce que voilà, c'est un ensemble à prendre en compte.
Alors on a appris, toujours dans le registre hein, du rapport entre politique et homosexualité, on a appris, hélas, il y a quelques jours, le décès de Jean Lebitou. Jean Lebitou, c'était le fondateur ou un des fondateurs du célèbre journal Guépier. Quelqu'un qui s'est trouvé très impliqué dans une activité militante dans le courant des années 70, ça s'appelait le FAR, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Parce qu'il s'était fait jeter justement de ces partis de gauche et d'ultra-gauche qui n'avaient pas très envie que des PD les infiltrent. Alors ils avaient décidé de réaliser leur propre mouvement avec une certaine radicalité et en tout cas avec une vraie pensée, avec une vraie réflexion. Et on a un peu l'impression qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent. On a l'impression qu'on voit au travers des publications qui ont peut-être remplacé Guépier, je pense à Tétu par exemple, où tu es journaliste, Anne. On a l'impression que là, bah, c'est plutôt la voix du marais.
La voix du marais, n'exagérons pas, c'est un peu un cliché ça. Non, en fait, par rapport à la question du phare, par exemple, et c'est vrai que bon, c'était début des années 70, hein, 71, c'est quand même une émanation des mouvements féministes, un mouvement de libération des femmes, qui a permis ensuite ce développement de mouvement de libération des homos. Et effectivement, à l'époque, la gauche, soit le parti communiste, ou la gauche même encore plus radicale, considérait que l'homosexualité, c'était quand même très bourgeois, hein, je veux dire, voilà, donc c'était quand même pas forcément au cœur de leurs préoccupations, même encore aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas faire de dénonciation, mais bon, je ne sais pas, lutte ouvrière, chose comme ça, c'est pas forcément non plus. Bon, le NPA a évolué par rapport à ça aussi, mais c'est vrai que c'était pas du tout une espèce de communion pour cette lutte, hein, bien sûr. Bon, Guépier a commencé en 79, hein, donc c'était un contexte période giscardienne, préparation donc de l'élection 81 avec les promesses de Mitterrand, etc. Bon, Tétu est né quand même dans un contexte très différent, on est en 95. Hein. Il y a eu aussi des changements au niveau de l'équipe. Bon, depuis deux ans maintenant, l'équipe a été totalement renouvelée. Bien sûr, le contexte est différent. C'est un journal qui se veut toujours engagé politiquement, bien sûr, mais qui reflète aussi la société et qui n'est plus, comment dirais-je, c'est qui suit son époque aussi. Alors que sur le côté marais, là, je suis pas très d'accord parce que c'est un peu une image que Louis Tétu, c'est journal PD parisien, voilà. Bon, faut quand même savoir, Tétu est essentiellement lu en province, hein, quand même. Mm-hmm. Et quand on regarde le nombre de lecteurs parisiens par rapport aux lecteurs en province, ça reflète pas du tout l'image que ça peut donner. Alors bien sûr, il y a le cover boy en couverture, il y a les pages mode, etc. Voilà. Bon, mais il y a aussi d'autres choses.
Les fiches cuisine.
Voilà. Non. Ah. Oui. Mais c'est vrai qu'on a développé une partie news magazine. Une partie news magazine avec Tétu News où on essaie justement de traiter un certain nombre de sujets de société qu'on peut trouver dans des tas de magazines grand public avec quand même ce prisme LGBT qu'on trouvera pas dans les magazines d'information générale, même si on traite des mêmes sujets. Donc c'est un peu notre volonté. C'est en cours.
Loin de moi l'idée de toute façon de descendre ce journal qui est bien indispensable, ne serait-ce que parce que c'est un des seuls. Peut-être autour de cette table, juste un petit tour de table comme ça, justement sur les prises de position politiques, sur la nécessité pour les communautés LGBT de devoir aujourd'hui produire une pensée politique et pas uniquement se retrouver pour des événements festifs et culturels. Peut-être Jérôme, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste.
Moi, j'estime qu'à travers les films que je fais, les documentaires, voilà, j'apporte mon petit, j'apporte ma part, quoi. Hein, donc, voilà, tous les documentaires que j'ai fait pour Canal depuis La Nuit Gay, bon, on essaie toujours de faire avancer le Schmilblick, comment on peut, petit à petit, en faisant des documentaires, et c'est important, quoi. Alors, Canal a fait ça depuis 15 ans. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait peut-être dans la télévision, c'est se dire, bon, on n'a plus besoin de faire des programmes spécifiquement gays, mais que ce soit complètement intégré à tous les programmes, quoi. Moi, en tant que réalisateur, bon, voilà, là, je suis en train de travailler sur un scénario de long métrage, justement, sur ce problème de l'homosexualité dans les cités. Voilà, j'essaye de travailler là-dessus, d'essayer de voilà, faire avancer les choses comme on peut, quoi. À mon niveau, c'est tout ce que je peux faire.
Michel, sur cette question.
À mon niveau, ça a été de mettre en place un festival sur ces questions, en interrogeant à la fois le jeu et le collectif, en interrogeant sous des formes diverses et variées, que ce soit des courts, des moyens, des longs métrages, en interrogeant aussi d'autres formes artistiques, c'est important aussi, hein, cette multiplicité dans un événement culturel, artistique qui fait sens et qui a envie d'interroger et de donner du sens, de permettre aussi à travers d'autres formes artistiques cette interrogation et ces questionnements.
Jérôme, sur cette nécessité de produire une pensée politique, une réflexion.
Moi, c'est un peu comme mon collègue en tant qu'artiste, scénariste et réalisateur. Il me semble que le cinéma a tout à fait son rôle à jouer dans ça. Moi, je passe plutôt par la fiction, donc je suis un peu protégé. Effectivement, le documentaire est aussi très parlant par rapport à ça. Il me semble que c'est aussi très personnel, mais tout ce que fait par exemple le festival, etc., cette forme de visibilité et le fait de soulever les problèmes. Je pense qu'on a parlé des pays où c'était encore l'homosexualité était réprimée, etc. Il faut pas oublier qu'en France, c'était il y a pas si longtemps et qu'on fait vite des pas en arrière. Donc voilà, il faut rester en éveil par rapport à ces questions.
En éveil et mettre en débat ces questions, ça sera le cas demain, samedi 8 mai, en présence d'Anne Delabre, mais aussi de Marie-Arlette Carlotti et de nombreux membres d'associations LGBT. Après la projection du film Einstein of Sex, c'est à 16h demain, donc aux Variétés. Je rappelais en introduction de cette émission, le festival Reflet fait aussi place à des actions notamment dans des collèges. Il nous reste pas beaucoup de temps quand même, le temps d'évoquer cette action du festival Reflet, Michel Philibert.
Très rapidement, des actions avec les lycées de la région PACA, où effectivement c'est important de pouvoir faire en sorte que des jeunes garçons et filles puissent venir découvrir des films et découvrir, comme on l'a fait hier matin lors d'une projection avec 5 courts-métrages plus un que j'ai rajouté sur une thématique qui s'appelait « Jeunes et homo sous le regard des autres », qu'on ait avec ces jeunes des rencontres, des débats sur ces questions-là, de leur sexualité, de leur devenir amoureux dans une société. C'est très très important, je crois. En tout cas, le festival s'est positionné là-dessus depuis maintenant 5 ans et continue ce travail important.
Des actions et puis aussi des expositions, une carte blanche notamment donnée à Vidéochronique cette année, 2 films je crois qui sont proposés, une exposition, un ensemble d'éléments et puis aussi des concerts bien sûr, des moments festifs avec par exemple ce soir Ocean qui est en concert.
Océane,
oui pardon, Océane Rosemary même, la lesbienne invisible qui est en concert à 20h ce soir.
Non, mais c'est pas un concert, c'est un spectacle.
Un spectacle, pardon, ce soir. Et même plus proche de nous encore dans le 5 à 7, puisque Johanna Tsipkin l'accueille tout à l'heure. Restez donc à l'écoute. Je rappelle juste pour conclure que toute la programmation du festival Reflet est sur le site internet de ce festival, www.festival-reflet.org, que je remercie Gilali qui était à la technique.
Merci.
Et on va se quitter avec la môme Catch Catch. C'est une chanson de Fréhel.
On a fait toute une affaire, des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui, qui vienne ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds, avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux, j'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. J'ai les pieds au mur comme un échalin, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui tâche, c'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre, avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement, bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au car, puis dis avec toi, ton père.